Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mélina. Mélina, je ne te connais pas, mais l'idée c'est de te rencontrer à travers cette émission qui s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir sa vision sur soi, d'élargir sa vision sur le monde, à travers des expériences des uns et des autres. Donc j'aime bien donner la parole aux voyageurs que je rencontre, soit moi en me baladant dans différents pays, soit sur des festivals comme ici, où différents peuples sont venus présenter leurs traditions. Et toi, Mélina, tu es là dans le cadre de différentes activités, de différentes cérémonies. On en parlera peut-être plus tard dans cette émission. Mais ce qui va m'intéresser, c'est toi. Qui es-tu? Quel est ton lien avec le voyage? Et à quel moment dans ton itinéraire personnel, tu as eu envie d'aller voir ce qui se passait au-delà de tes frontières et de ton pays?
Alors, beaucoup de choses. Le voyage, il s'est invité à moi assez rapidement dans ma vie. J'étais très curieuse et je passais beaucoup de temps à voyager seule avec moi-même en tant qu'enfant et me balader un peu partout. J'ai mes grands-parents qui, assez tôt, sont partis voyager à roulotte. Et du coup, j'ai eu cette magnifique chance d'aller un petit peu sur les routes avec eux et de vivre cette forme-là de vie.
Donc, enfant déjà, tu es en mouvement avec tes grands-parents qui t'emmènent en roulotte sur les routes de France, c'est ça?
Ouais, je devais avoir, je sais pas, peut-être 10 ans, 10, 11, 12 ans, ouais. Et de vivre au pas du cheval, de prendre soin, de rencontrer les gens, de s'adapter à la terre, l'environnement, de qu'est-ce qui est vivant là maintenant.
Mais déjà ça, c'est pas banal de voyager à 10 ans en roulotte.
Ouais, pendant les vacances, mes parents me déposaient là-bas, je partais avec eux pendant un temps, et puis je repartais à l'école, ou je n'allais pas à l'école pendant un temps, si c'était trop important pour moi de rester plus longtemps avec eux. Okay. Et puis, j'ai toujours été très curieuse de pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre, quel est le sens de... Pourquoi l'humain? Au-dessus de pourquoi l'humain, à l'époque, c'était pourquoi Mélina, en fait. Et j'avais pas les réponses dans des livres. J'avais beaucoup de réponses dans mon corps, qui était très malade. Pas forcément de réponses dans l'humain, justement, qui était assez ignorant, peu importe son grade. Et très tôt, j'ai mon père qui s'est beaucoup sacrifié pour pouvoir me permettre de voyager. Ouvrir ces possibilités. Donc je partais avec un comité d'entreprise en vacances à l'étranger. Et eux, ils se sont toujours pliés en quatre pour nous permettre de partir en vacances dans un endroit où on partirait avec le camion, où on partirait camper.
Nous, donc vous étiez plusieurs.
Ouais, moi et mon autre sœur qui a 4 ans de moins que moi. Et après, à mes 18 ans, j'ai une autre sœur qui est née des mêmes parents. Donc à l'époque, on partait tous les quatre. Ouais, moi j'étais pas une enfant qui était faite pour aller à l'école du tout, vraiment pas du tout. J'ai grandi 10 années dans 150 hectares de terre, enfin voilà, j'avais besoin de grand espace.
Donc déjà le mouvement est quelque chose qui est incarné par tes parents et même par tes grands-parents.
Complètement, ouais. Ouais, ça a vraiment orienté mes envies. Et le fait de partir dans des pays étrangers déjà très jeune, j'allais beaucoup au Maroc, je suis partie très jeune au Mexique, je suis allée en Inde, enfin il y avait vraiment la Thaïlande, c'était du coup très ouvert à « et qu'est-ce que c'est plus loin que mon univers à moi ?» Et vu que dans mon univers à moi, je ne pouvais pas trouver les réponses de ma santé, du coup forcément, à 18 ans, quand je me suis retrouvée vraiment avec moi-même, où mon père m'avait toujours dit « bon, quand t'as 18 ans, hein, tu t'en vas hein, », en rigolant. Mais du coup, ça c'est quelque chose qui s'est imprégné, je pense. Et du coup, à 18 ans, je me suis retrouvée face à moi-même, disant « ok, alors là, maintenant ». Et ça a été l'émergence de multitudes de possibles. Où c'était pas en France que ça m'animait en fait. Et donc j'ai créé une association avec laquelle j'ai d'abord un peu travaillé en France pour accompagner les enfants à savoir pourquoi eux, pourquoi l'humain. Et donc je travaille sur la gestion émotionnelle et le but d'être sur Terre. Et je suis partie voyager à mes 18 ans en sac à dos avec cette association. Dans différents pays.
Donc tu crées une association à 18 ans et tu pars voyager avec l'association que tu crées. C'est pas mal ça quand même, c'est jeune, non?
Ben ouais. C'est jeune. très jeune. Et c'était très culotté aussi parce que du coup, j'arrivais, j'étais animatrice et j'avais passé mon BAFA très tôt. Et j'étais devenue formatrice BAFA à 18 ans. Donc je connaissais un peu les dessous, ce qui a permis que je crée des super dossiers rapidement pour pouvoir me donner du crédit en fait. Parce que avec ma bouille de 18 ans, en fait, j'en paraissais 14 et c'était assez complexe.
Et pour trouver aussi les financements, les subventions, parce que quand on part en voyage, il y a aussi cette problématique ou ce questionnement-là, un questionnement économique.
Complètement, complètement. Donc il m'a valu vraiment une dévotion de ma foi, de « c'est ça que je fais parce que j'ai besoin d'aller voir ces enfants, j'ai besoin d'aller accompagner ces enfants pour m'accompagner, moi ». Et pour me mettre aussi au défi, parce que j'avais beaucoup de mal à compter sur mon corps. Il était très changeant, dû à la maladie de Crohn. Il y avait beaucoup d'acidité, du coup beaucoup d'inflammation. Donc il y a plein de moments où je pouvais penser que je pouvais marcher un 100 mètres. 100 mètres, hein, c'est pas beaucoup. Hein, et qu'en fait, je pouvais, au bout de 3 mètres, être arrêtée par le corps, parce que l'inflammation était trop grande. Donc il y avait vraiment tous ces enjeux en moi, depuis toute petite, de à quel point je peux compter... Sur ce que j'incarne en fait. Et en France, on est tellement aseptisé, tellement protégé de ça, que c'était m'empêcher d'aller me confronter à moi-même et au support de la terre, au support des êtres que je connais pas, au support des éléments, enfin me rendre en fait complètement. Et mon filet, c'était de pouvoir avoir une association qui allait soutenir mes pas. Donc j'ai voyagé avec ça, comme ça.
Je veux bien que tu reviennes aussi sur la maladie, parce que tu parles de maladie de Crohn, où tu me dis que des fois, 100 mètres, c'était limité par ton corps, et en même temps, le mouvement fait partie de toi. Donc comment est-ce que tu arrives à concilier une maladie qui, quelque part, est impactante sur ton envie d'ailleurs, et finalement, quand même réussir à vivre la vie que tu t'es choisie?
Oui. Eh bien, je pense que... Aujourd'hui, je suis encore nomade. Donc, j'ai 30 ans. Et je pense que même que je le suis encore plus que ce que je ne l'ai jamais été. Et en fait, je crois que mon défi personnel, il était de trouver maison et racine dans le corps en permanence, peu importe en fait l'extérieur. Et du coup, cet élan magique que j'ai eu à 18 ans, ce courage incroyable que j'ai eu à 18 ans, parce que des fois même aujourd'hui, je le regarde en me disant « mais waouh, quelle pulsion de vie !» Je pense que c'était tellement nécessaire pour moi de passer cette étape, ce cap de « et après ?» Après, c'est la mort. Et après, rien. Alors, où je restais dans ma mort permanente de maladie qui m'empêche, qui me limite, qui m'avait limité pendant 18 ans à aller faire du ski avec des amis, partir manger au restaurant, aller au cinéma, enfin, faire toutes les choses inimaginables. Où j'acceptais qu'après la mort, rien. Donc, j'ai accepté en sautant le pas, en fait, en disant... Que je meurs ici limité ou que je meurs là-bas en expansion, alors quoi? Et donc ça m'a fait traverser toutes mes initiations en fait, que j'avais choisi d'incarner parce que mon corps était très malade, oui, et en même temps il m'apprenait à chaque fois que je traversais une énorme crise ou que je me relevais d'un malaise ou peu importe en fait, c'était une nouvelle leçon de foi, de... Je choisis encore une fois là de vivre pour partager quelque chose qui est précieux. Et le voyage m'a beaucoup permis ça, en fait, de comprendre.
C'est quoi la maladie de Crohn? Tu peux juste nous l'expliquer?
Alors moi, je dirais, avec mes mots, que déjà j'ai mis très très longtemps à pouvoir enfermer cet endroit-là dans une idée que ce que ça pourrait être, la maladie de Crohn. Et puis ensuite, je l'ai jeté très loin en me disant ça n'existe pas et c'est pas dans mon corps. C'est un espèce de termes qui me permet d'être en lien plus simplement avec des humains qui connaissent pas forcément les différences ou qui n'ont pas forcément vécu de différences corporelles ou émotionnelles ou intellectuelles et qui du coup sont pas forcément confrontés à cette adaptabilité en fait, à ce qu'on commence de vivre avec l'autre. Donc je ne me sens pas malade de Crohn. Et la maladie de Crohn, ou en tout cas les symptômes très forts qui se manifestent à travers c'est ce nom. C'est une porosité intestinale énorme qui fait que les aliments que je mange ne sont pas censés aller dans mon sang. Ils sont censés être digérés. Et la maladie de Crohn abîme énormément la paroi intestinale, telle que les aliments que tu vas intégrer peuvent toucher, traverser le sang ou inflammer du coup des systèmes, parce qu'ils ne sont pas censés aller dans le sang. Et donc ça peut donner tout type de symptômes complètement improbables, tu vois, comme... J'ai une fois, je sais pas, je devais avoir 15 ans, j'ai arrêté de voir pendant 3 jours. Mais personne ne savait que c'était la maladie de Crohn, ça n'existait même pas en fait à ce moment-là. Moi, on me disait juste que j'étais hypersensible. On disait à mes parents quand j'étais ado que j'étais stressée. J'étais vraiment un grand mystère de la science. C'était incroyable. J'étais chiante sensible, quoi, en fait.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mélina, tu disais que tu as commencé finalement à voyager assez jeune, hein, avec tes parents, tes grands-parents. À 18 ans, tu t'émancipes. Ton papa te dit maintenant tu es assez grande. Et après, tu commences à voyager toute seule à ce moment-là. Et quel a été ton premier grand voyage en tant que femme seule?
Alors, je suis partie. Alors, déjà, je suis partie à 18 ans en Inde parce que je suis partie en tant que formatrice BAFA. Et j'ai réussi à squeezer un petit truc où je suis partie avec ma meilleure amie dans un groupe de jeunes qui avaient entre 16 et 18 ans qui partaient en Inde. Sauf que j'étais hyper exigeante, je crois, ou en tout cas, je savais exactement ce que je voulais, déjà, très tôt, très jeune. Et du coup, très vite, quand j'ai rencontré ce monsieur qui était en charge de ce groupe de 16 à 18 ans, je l'ai trouvé vraiment très, très nul. Et donc, j'ai décidé que je partirais ce mois-ci en solo, en fait, ou avec mon ami, mais que je ne suivrais pas cette autorité externe.
C'est vraiment sale gosse.
Vraiment infernal. Et du coup, je me suis vraiment retrouvée... Et c'était pas comme le Mexique, là, c'était beaucoup plus intense, l'Inde. Ouais. Je me suis retrouvée dans le Rajasthan, du coup. Alors lui, il était quand même gardien de là où, dans quel bus je montais, à quelle heure. Mais sinon, tous les programmes de journée, je me retrouvais, moi, à marcher, à me faire trimballer de droite à gauche avec cet ami, ou en solo. Et à rencontrer le regard, en fait, surtout. Le regard d'une femme blonde, aux yeux bleus, blanche, petite. Et c'était ça, surtout au Rajasthan, où c'est vraiment pas la même culture que dans le sud.
Et comment tu vis ça, ce regard? Parce qu'il y a quelque chose d'assez grisant, finalement, à être différent. Quand on arrive dans un pays, quand on est blanc, qu'on va en Afrique, bah forcément, ou quand on est blanc et qu'on va en Asie, les regards se tournent vers nous. Donc il y a quelque chose de très plaisant aussi là-dedans, mais qui peut aussi être oppressant. Comment est-ce que toi, tu dis là? Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, cette notion de regard?
Alors, je pense que mon père m'a pas mal aidée, parce qu'au Maroc, déjà quand j'étais jeune, qu'on voulait m'acheter pour des milliers de kilos d'or ou de chameaux, j'avais déjà cette notion de « Ah, donc je peux être un objet, on peut vouloir m'acheter. » Alors non. Et donc très très tôt quand même, rien que ce voyage-là, j'étais couverte. Très vite, je cherchais quelles étaient les traditions. Je regardais comment les femmes étaient habillées pour passer presque inaperçues, même si c'était presque impossible. J'ai les yeux bleus, je suis blonde et j'ai quand même la peau blanche. Mais du coup, j'avais quelque chose où je me couvrais le visage, où très vite j'allais chercher leur tradition pour pouvoir sembler respectueuse, je crois.
Je crois que la force du voyage, c'est vraiment ça, c'est de lâcher son carcan, son conditionnement et ses croyances, et accepter d'en découvrir de nouvelles. Sinon, on reste finalement qu'un touriste. Sans vouloir être péjoratif, hein, c'est très chouette aussi de partir en vacances, parce que on a besoin, je pense, de se reposer. Mais moi, j'associe vraiment le voyage à cette notion d'immersion dans un contexte dans lequel tu vas t'imprégner, tu vas mettre de côté ce que tu penses savoir.
Ouais, et ton identité. Il y a vraiment eu... Dans tous mes voyages, c'était toujours un endroit où Mélina n'existait pas, en fait. Où toi, tu es quoi, et comment tu vis, et du coup, me donner une porosité, et puis c'est en plus ma maladie, donc c'est parfait, une porosité qui me permet vraiment d'être dans la compassion, d'être dans la compréhension, d'être dans la tolérance, et donc d'intégrer la culture, vraiment, de l'autre, qu'elle puisse me façonner pour un temps, pour que je puisse la comprendre en moi, et ensuite choisir et être souveraine de qu'est-ce que je garde en moi, qu'est-ce que je ne garde pas.
Mélina, à 18 ans, tu pars en Inde, donc avec ce groupe, mais bon, j'imagine que tu y es retournée depuis. Donc dans quel cadre, dans quel but, et pourquoi l'Inde?
Eh bien, l'Inde, parce que après ça, j'ai beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est, en sac à dos, à mon pied, enfin voilà. Et l'Inde restait, ça ne partait pas. Et en fait, j'ai eu un poste pour être art-thérapeute, qui était ma formation, dans une école tamile. Et j'avais fait une demande profonde de trouver des humains qui vivent pour les mêmes raisons que moi, un peu en secret, vraiment la petite prière secrète d'un soir. Et en fait, j'ai une amie qui me parle du service civique et qui me dit, écoute, il y a des services civiques qui sont hyper intéressants en ce moment, qui sortent sur l'éducation. Peut-être, regarde, tu te spécialises avec les enfants. Et je trouve cette improbable et magnifiquement improbable. Je trouve cette femme qui a une association dans le Tamil Nadu, à côté d'Auroville. Et Auroville, je suis tellement bercée par Sri Aurobindo, que lui, tout son travail, c'est que sur la mémoire cellulaire et la reprogrammation et la guérison cellulaire, que c'est mon cœur qui explose, quoi. Je me dis, c'est une évidence et c'est improbable, ce truc. Donc je téléphone, je parle anglais comme une quiche, parce que j'ai... Non, je parle anglais, mais un peu comme une quiche, quand même. Et puis parce que j'ai appris à parler anglais dans des pays qui parlent vraiment anglais comme des quiches. Donc ouais. En fait... Et là, on me dit que ça va être pour des Tamils. Donc je me dis, il va falloir que je parle le Tamil. Ça va être incroyable. Donc le tamoul en français. Et l'entretien se passe merveilleusement bien. Et en fait, je tombe en amour de ce lieu. Je pars vivre là-bas. Et je pars vivre là-bas.
Donc là, tu pars vivre en Inde, à côté d'Auroville. Donc Auroville, tu l'as évoqué, donc c'est une communauté internationale. Hein, c'est quelque chose d'un peu particulier en Inde. Donc on connaît tous l'Inde, Auroville un peu moins. Donc tu parlais de Sri Aurobindo. Donc Sri Aurobindo, c'est un sage indien qui a eu une vision avec la mère, une femme franco-égyptienne, de créer une communauté internationale pour pouvoir vivre des expériences, hein, dans l'idée d'une nouvelle humanité. Et aujourd'hui encore, on est à quoi, 60 ans plus tard, Auroville existe toujours et réunit entre 4 et 6 000 individus qui viennent de différents pays et qui expérimentent le vivre ensemble. Et donc toi, tu trouves un boulot là-bas, donc à côté d'Auroville, si je comprends bien.
Et en fait, à côté d'Auroville, mais qui fait partie vraiment des fondations d'Auroville. Quand ça a été créé, donc c'est une grande histoire qui a beaucoup évolué en 60 ans, mais en tout cas, une des personnes magnifiques a mis au monde cette école, vraiment sortie de terre cette école pour les enfants qui étaient autour du centre d'Auroville, parce qu'il n'y avait vraiment qu'un petit centre à ce moment-là avec le Matrimandir, et pour soutenir du coup cette école qui s'appelle IKEM. Et donc ça a vraiment accueilli que les enfants tamils. Alors que le système éducatif de Auroville était assez différent quand il a commencé à naître. Mais ils ne voulaient pas du tout imposer leur souhait, leur choix éducatif à ces enfants-là, mais en même temps, ils voulaient leur permettre d'avoir des enseignants, d'avoir un partage de connaissances et une culture qui était offerte.
Et un accès à l'éducation.
Complètement, complètement. Ouais.
Donc tu te retrouves comme service civique à faire une mission de 2 ans, c'est ça, en Inde?
Une année, à la base, qui s'est étendue, du coup. Et donc, on n'était que 2 blanches dans l'école. Donc, on jouait vraiment le jeu de se fondre, de faire partie. Donc, j'avais choisi de vivre dans le village avec tous les Indiens pour pas du tout vivre un voyage, une vie d'expat, en fait. Ça ne m'intéressait absolument pas. D'apprendre le tamil et d'être vraiment acceptée. Parce que mon travail était un travail d'art-thérapeute, mais je ne devais pas dire que c'était un travail thérapeutique. Je ne devais pas dire que je parlais aux femmes qu'elles pouvaient se positionner pour ne pas être violées, ou de parler aux enfants que leur corps était le leur et qu'ils n'avaient pas le droit d'être touchés par un adulte, etc., etc. Donc pour ça, je devais vraiment jouer un jeu culturel et m'adapter beaucoup. Et donc j'ai fait ça pendant une année, et puis la deuxième année, j'ai décidé de former les profs, à passer beaucoup de temps à parler du système nerveux, à parler de l'éducation émotionnelle, à parler de comment le cerveau fonctionne. Et du coup, si je tape un enfant avec lequel je travaille, pour qui je suis référente de protection, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Et donc j'ai plutôt axé mon travail avec eux, qui était magnifique, avec elles essentiellement, ces enseignantes-là, et tout en travaillant pour la communauté d'Auroville, où j'étais clairement aurovillienne sans papier. Mais en tout cas, je participais très 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 activement à la vie communautaire d'Auroville pendant les 3 années où j'étais là-bas. Ouais.
Donc là, on parle d'Inde et d'Auroville, mais il y a eu d'autres voyages. Tu me parlais avant de Mexique, je crois, de Maroc. Donc voilà, qui est Mélina aujourd'hui?
Écoute, Mélina aujourd'hui, elle voyage beaucoup. Elle crée une école au Pérou, dans une forêt à Chaninka, avec José, avec qui je co-crée depuis 4 ans maintenant. Je ne vis plus à Auroville depuis 4 ans, mais j'y retourne 2 ou 3 mois par an pour accompagner des groupes de femmes sur cette terre, et recevoir les enseignements de Sri Aurobindo et amener de l'amour à cette terre qui est en train de se faire détruire aussi. J'amène des gens rencontrer les dauphins en Égypte, marcher dans le désert du Maroc, prier à Konya en Turquie.
Oui, parce que je crois que tu es assez active sur les réseaux sociaux aussi, hein, c'est ça? Tu amènes des groupes ou tu organises en tout cas des retraites?
C'est ça, j'organise des retraites parce que effectivement, c'est pas vraiment des groupes que j'amène. Les gens viennent dans cet endroit où je suis à ce moment-là pour prier et pour prendre soin de la terre. Et ensemble, on crée un espace d'enseignement, en tout cas de réception. Pourquoi en fait on est là et pour servir quoi? Et ensuite, voilà, sur cette terre de France aussi qui m'a vu naître et que j'aime éperdument. Donc c'est assez mélangé, ça dépend. Je suis un peu le vent, là où il m'amène, là où il appelle, là où il a besoin d'être, je sais pas, de recevoir mes pieds pour que je marche.
Oui, tu parlais de nomadisme, donc tu te définis comme une nomade aujourd'hui. Ça veut dire quoi être nomade en France au XXIe siècle?
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
J'ai l'impression qu'on idéalise aussi le nomadisme parce qu'on y met souvent le mot liberté derrière. Aujourd'hui, on se retrouve souvent avec beaucoup de contraintes, qu'elles soient familiales, professionnelles ou matérielles. Et à t'observer, observer les gens qui font ce choix, y a souvent une forme d'envie aussi qui peut émerger chez certaines personnes. On se retrouve quelquefois bloqué dans nos vies. Donc adresse-toi peut-être à ceux qui ont envie de faire une transition de vie, à ceux qui ont envie aussi d'être peut-être plus libre, plus dans le mouvement. Parce qu'effectivement, c'est ce que tu es. Tu es vent, hein, les pieds dans la terre, tu vas là où le vent te porte et tu as l'air d'incarner, d'avoir complètement créé ta réalité. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'assez inspirant parce qu'on est plein à vouloir remettre du sens et de la cohérence aujourd'hui dans nos existences.
Ouais. Oui, complètement. Moi, je pense que ça part déjà d'un endroit de se relier d'abord en tout premier au plus profond de soi, de qu'est-ce que moi, là, maintenant, et juste, qu'est-ce qui m'anime dans cet instant. Et ça ne veut pas dire que ça va durer 10 ans. Des fois, il y a des transitions de nomades qui durent 10 semaines, enfin 10 jours. Et plutôt déjà de poser cette vérité-là de pourquoi ce changement en moi, qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça puisse être le plus juste. Et ensuite, je pense que c'est de visualiser vraiment, en fait, l'endroit où j'ai envie de m'offrir. Et ouais, d'avoir tellement confiance. Tellement confiance, en fait, que ce sera juste parfait. Si je suis l'espace de mon cœur, et on me l'a tellement dit quand j'étais enfant, et j'y croyais tellement pas. Alors je le redis maintenant. Vraiment, si tu suis l'espace de ton cœur, à quel point c'est généreux. À quel point tout t'embrasse, tout vient te soutenir, tout te mène exactement à l'endroit où tu dois aller. Et ton abondance, elle est là, en fait. Elle n'est pas dans ton salaire. Ton abondance, elle est dans ta lumière, elle est dans comment tu partages ta présence, ton regard, ton sourire, ton souffle. Et c'est là où les gens t'offrent à manger. C'est là où les gens t'offrent un lieu. C'est là où les gens t'offrent un travail, t'offrent le sens ou te rappellent le sens, si tu l'as oublié. Dans l'endroit, je pense que le premier endroit à cultiver, c'est la confiance, de sauter le pas, de se jeter à l'eau.
Et de surmonter ses peurs.
Ouais, d'écouter le cœur et de dire c'est bon, go, j'y vais quoi.
Mélina, tu es comment là? Tu es venue avec ton camion?
Ouais, je suis venue avec mon camion, ouais.
Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais là? Et après, tu vas où?
Alors, je venais du fin fond des Cévennes. C'était très long parce que mon camion est très lent. Dans le fin fond des Cévennes, j'animais une retraite de méditation en silence. Et là, je repars. Donc là, j'animais ici, sur cet espace. Et je repars en Brocéliande pour le festival Chant et Danse Médecine que j'organise pour l'école au Pérou.
Et comment tu t'es retrouvée ici, au festival, au cœur du sacré? Quelle est l'histoire avec ce lieu et ce festival?
Alors, l'histoire avec ce lieu, c'est que quand je suis rentrée en France il y a 4 ans, en tout cas rentrée, que j'ai vraiment déménagé une grosse partie de mes affaires qui étaient en Inde, je commence à co-créer avec Rosé, qui avait vu l'association avec laquelle je travaillais pour les enfants. Et on met toute notre énergie vraiment pour le Pérou, pour la communauté dans laquelle il a grandi. Et en fait, on démarre à créer des retraites ensemble. Moi, j'avais jamais créé de retraite en France, et lui non plus. Et donc, on a mis ça au monde. Ça a été assez incroyable, notre rencontre. Et donc, on a animé les cercles ensemble, et puis voilà, des cérémonies, etc. etc. Jusqu'à ce que je rencontre Corinne, par le biais de José, et qu'ils me disent, mais viens, en fait, on partage ça là-bas. Et je venais tellement pas de, de ce milieu-là, avant de quitter la France, où j'étais très reliée, quand je vivais en France, jusqu'à mes 18 ans, j'étais très reliée à la nature, assez solo, ou avec un corps très proche. Mais je partageais mes enseignements, je les ai pas trop partagés sur les terres de France, en fait, jusqu'à il y a 4 ans. Du coup, c'était super excitant de se dire, ok, comment sont ces gens, en fait, ici ? Comment ils accèdent à leur sacré ? Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, pour eux, sacré, en fait ? Parce que je voyais marqué sacré un peu partout quand je suis rentrée. Donc, comment trouver ce chemin ? Et j'ai trouvé beaucoup de sens. Et je trouve encore beaucoup de sens à venir ici, à partager celle-là, où c'est vraiment un moyen de ramener dans le cœur, en fait, pour moi, tous ces gens.
Le projet avec le Pérou, comment c'est né, tout ça ? Donc, c'est né d'une rencontre, hein, si j'entends bien, avec Rosé.
Ouais, complètement. C'est né d'une rencontre. Et moi, j'avais toujours rêvé de créer une école. Et c'était hors de question que ça soit à partir d'un besoin personnel. Ça n'avait absolument aucun sens. Donc j'ai toujours été plutôt à l'écoute des besoins externes des pays dans lesquels je vivais. Et j'ai travaillé beaucoup dans les écoles. Et en fait, on parle un jour de ce projet, de cette idée folle de créer une école dans une forêt particulière, proche de Satipo, dans une communauté qui s'appelle Kempiri. Et donc on en parle beaucoup jusqu'à ce que je lui dise « Ok, moi je te soutiens à fond dans ce projet. Mon cœur, il y est déjà. » Laissons-le naître, mais pour ça, il faut de l'aide, en fait. Je ne peux pas tout faire toute seule. On ne peut pas faire tout seul. Et donc, on fait naître une première édition du festival où lui, il avait déjà mis 3 éditions sur une journée à Paris. Et là, on fait naître 4 jours en Bretagne, dans le lieu où on faisait les retraites. Et on part au Pérou. Il me présente cette terre, on rencontre ce peuple, on y passe du temps. Et en fait, c'est un projet qui demande de s'adapter à tellement de réalités. Et il m'enseigne énormément là-dedans, d'ailleurs, dans ma réalité du temps et la réalité du temps de là-bas. Et pas comme en Inde où on pourrait te dire chanti chanti, c'est un peu lent, mais dans là, la réalité de guerre, en fait, la réalité des narcos qui tuent des chefs de communauté, qui tuent des représentants des droits de la terre, qui tuent des gardiens de médecine parce qu'ils veulent récupérer des terres pour continuer à planter plus de feuilles de coca pour avoir plus de cocaïne. Et donc là, on est dans cet endroit où nous, ça fait 4 ans qu'on essaye d'avancer avec ça, avec cette réalité, tout en respectant, tout en ne prenant pas de risques pour notre propre santé aussi, notre propre vie, et en étant très conscient de la réalité de ce que c'est, de vouloir monter ce projet là-bas. Pour ces enfants qui ont, en fait, eux, besoin de retrouver des racines, parce qu'ils ont tout perdu pendant la guerre d'Espagne, enfin, quand les Espagnols se sont... du sentier lumineux pendant cette guerre-là, quand les Espagnols l'ont envahi. Donc il n'y a plus de sens pour eux de vivre en forêt. Ils n'ont plus de racines avec qu'est-ce que c'est être Achaninka. Donc c'est créer une école pour que des Achaninka du Brésil puissent venir réenseigner, pour qu'il puisse y avoir des partages écrits de la tradition et de la préservation de la forêt.
Donc quand tu parles d'Achaninka, là on parle d'une ethnie, hein, d'un peuple racine.
On parle d'une ethnie, oui. En tout cas, c'est avec eux qu'on a décidé premièrement de poser des fondations. Parce que c'est ceux qui ont le plus souffert, en fait, du passage du sentier lumineux, dont José a souffert en tant qu'enfant. Et donc la résonance se trouvait ici, en fait, dans lui, sa proximité avec l'histoire de ces peuples.
C'est triste de voir comment l'homme blanc, souvent, au nom d'une idéologie, au nom d'une religion, va explorer, rencontrer de nouvelles terres, de nouveaux continents, de nouveaux pays. Et en arrivant quelque part, plutôt de se dire « Waouh, génial, on est complémentaires parce qu'on a pu évoluer de manière différente pendant 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans. On va s'imposer, on va vouloir imposer notre vision, nos croyances, notre réalité et à quel point on a impacté et on continue d'impacter aujourd'hui les peuples racines dans pas mal de pays et de continents. »
Ouais, complètement. Et c'est l'impact, en fait c'est même plus que l'impact, c'est tellement une énorme destruction. C'est atroce. Moi, je rêve d'un monde où, en fait, chacun est chez soi, ou sinon chacun respecte l'autre comme étant soi. Parce que on parlait du tourisme tout à l'heure, mais l'impact du tourisme, l'impact des frontières ouvertes, il est immense, en fait, pour le cœur de la terre, vraiment le cœur des traditions. Et ça a toujours c'est toujours la même histoire de pouvoir, d'ego, de possession. Et tant que l'humain ne sera pas relié de nouveau à son cœur, en fait, on vivra toujours la même chose, peu importe où dans le monde, parce que là, on parle du Pérou, mais c'est partout, cet endroit-là. Pour l'ego du personnage qui veut réussir à être aimé, je vais aller quelque part pour tout détruire en croyant que je crée quelque chose et que j'amène un savoir ou une connaissance ou une conscience. Et finalement, chaque individu, chaque peuple qui est soudé a besoin de rien, absolument de rien. Oui, ils sont déjà corps, ils sont déjà tellement pleins de eux. On vient sur Terre avec une direction, avec une mission, avec une unicité qui est tellement, tellement précieuse. Comment ensemble on se soutient à faire briller cette unicité-là, en fait, cette immortalité.
La boucle est bouclée. Merci à toi, Mélina.
Merci à toi, tellement.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.